Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live. Aujourd'hui, nous sommes le 18 août 2021 et aujourd'hui, on va parler un petit peu des 4,5 raisons qui ont fait que le marché a baissé hier. En fait, globalement, c'était assez intéressant parce que hier matin, on était plutôt confiant. On avait fait un back-to-back assez impressionnant la veille. Donc, il y avait une forme de confiance, une forme de solidité. Et puis, hier, on nous a mis quand même pas mal de trucs sur la figure qui ont fait que finalement, on a beau être le plus bullish du monde, le plus optimiste du monde, le plus convaincu que le bull market ne s'arrêtera jamais. Force est de constater qu'il y a des fois où on marque un tout petit peu le pas. Alors, la première chose qui a vraiment pesé sur le marché, c'était les ventes de détail. Alors, on a eu les ventes de détail aux États-Unis hier qui étaient pas top, je vous passe les chiffres. C'était pas mauvais, mais c'était globalement en dessous des attentes. Et puis, ça laissait surtout supposer que, vous savez, ce fameux pic de croissance dont on nous parle depuis longtemps, eh bien, ce fameux pic de croissance est, semble-t-il, un petit peu mal barré et handicapé, vu qu'on voit très bien que les gens ont commencé à renoncer finalement à consommer autant qu'on pouvait l'espérer. On a vu aussi les chiffres trimestriels de certains gros retailers type Home Depot qui s'est fait massacrer hier. Comme quoi, finalement, oui, c'est vrai, les gens consomment, mais un petit peu plus avec parcimonie qu'avant, que ces derniers mois. Alors peut-être c'est par le fait qu'ils reçoivent plus régulièrement leurs 1 200 $ de chèque de stimulus, mais en tous les cas, pour l'instant, on a un peu l'impression que les gens, oui, continuent de consommer, mais effectivement avec parcimonie et modération, les deux en même temps, et on se retrouve dans une situation où finalement on se dit cette grosse croissance qu'on avait démarré avec ces avalanches de stimulus depuis une année sont un tout petit peu en train de marquer le pas, et c'était pas forcément une bonne nouvelle. Après, l'autre thématique sur laquelle on revenait, c'était la Chine. Alors, la Chine, ils ont continué à mettre en place des nouvelles restrictions au niveau des libertés individuelles sur Internet. C'est assez rigolo de parler de ça avec la Chine en même temps, mais... C'est vrai qu'ils ont décidé de resserrer les boulons par rapport à ce qu'a le droit de faire les sociétés Internet. Donc, vous savez, la collection des données. Quand chaque fois que vous allez sur Internet, chaque fois que vous allez sur un site, il y a ces fameux cookies. Donc, on essaie d'avoir un maximum d'informations sur vous. Et puis, une fois qu'on a un maximum d'informations sur vous, on essaie de vous cibler un maximum de data et puis de publicité dans la figure. Je sais pas, essayez de dire voiture sur achat de nouvelles voitures à côté de votre téléphone. Il y a de fortes chances que Facebook vous balance deux tonnes de publicité sur le sujet dans les jours qui viennent. Du coup, en Chine, ce serait interdit. Donc, la collecte de data, qui est une grosse source de revenus pour ces énormes boîtes d'Internet, pourrait se retrouver vachement impactée, vont se retrouver certainement vachement impactées parce que la Chine a décidé que ce serait les seuls, finalement, à avoir des informations sur vos libertés individuelles en tant que Chinois. Et ils préfèrent quand même être les seuls à savoir vos petits secrets plutôt qu'il y ait plus ou moins la moitié des sites internet de e-commerce en Chine qui en connaissent autant qu'eux. Donc ça a l'air de les déranger, et donc il y a un peu de pression qui se met également sur le côté chinois. Donc hier encore, les Baidu, les Alibaba, les Tencent sont fait avoiner dans cette thématique-là. Donc ça continue à peser. Vous mettez ça plus le fait que la Chine continue de montrer des faiblesses au niveau économique, ça on en a déjà parlé hier, plus les ports qui sont fermés, plus le Covid qui prend de l'importance en Chine, forcément, il y a de quoi peser. Et puis, évidemment, la troisième raison, c'était évidemment le Covid. Alors, le Covid, on sait que ça continue à se développer, on voit que les chiffres sont toujours pas très très bons, on a appris ce matin qu'en fait, les Néo-Zélandais vont boucler Auckland pour une semaine parce que ils ont chopé un cas Covid positif, donc du coup on ferme tout et on repart dans la mode des confinements, et on espère tout simplement que ça va pas devenir une norme à nouveau pour cet automne, surtout qu'on avait quand même 2-3 projets pour partir en week-end à Barcelone, enfin des trucs comme ça. Enfin, pour l'instant c'est pas vraiment le cas, et la pression reste constante de ce côté là la quatrième raison pourquoi on baissait hier. Je vais pas dire démonter parce que hier on baissait. Il faut quand même constater qu'à la fin, le marché aux États-Unis a perdu 0,7%. Il y a pas de quoi non plus se jeter la tête contre les murs. Mais la quatrième raison, c'était la rotation sectorielle. Alors vous savez que depuis le début de l'année, on parle beaucoup de rotation sectorielle. Et cette rotation sectorielle nous a quand même néanmoins permis de monter progressivement, pas très vite, mais régulièrement. Pourquoi ? Parce que quand finalement vous sortez d'un secteur pour rentrer dans un autre, eh bien il y a des flux qui font l'effet balancier et donc finalement vous ne sortez pas vraiment. Puis comme il y a quand même beaucoup de liquidités qui rentrent dans le marché, ben, il y a plus de liquidités positives que négatives. Donc du coup ça pousse le marché à la hausse parce que les gens changeaient de secteur. Sauf que hier soir, dans la baisse toute relative que l'on a vécue, eh bien on s'est rendu compte qu'il y avait une grande partie des vendeurs qui vendaient sur tous les secteurs. Donc du coup, quand vous avez tous les secteurs qui sont sous pression, eh bien forcément, il n'y a plus d'entrée d'argent. En théorie, s'il n'y a nulle part où ça monte, c'est que du coup, bah, ça baisse pour de vrai. Donc alors maintenant, la question de savoir, c'était est-ce que ça va continuer à baisser comme ça tout le reste du mois d'août et puis qu'on verra ça en mois de septembre, ou alors est-ce que c'est juste de nouveau ces buy opportunity dont on parlait, ces achats sur faiblesse dont on parlait il y a quelques jours, ou est-ce que c'est complètement autre chose, parce que je vous rappelle quand même qu'il y a quand même 99,9% du marché qui s'attend à un crash entre le 1er septembre et le 31 octobre. Donc du coup, il faut quand même qu'on garde un petit peu de munitions pour pouvoir mettre la pression vendeuse le jour où ça se présentera pour de vrai. Et puis, la quatrième raison, 0,5, parce que c'est pas vraiment une raison finalement, c'est l'Afghanistan. Alors depuis 3 jours, hein, on n'arrête pas de se poser la question, parce que si l'arrivée de l'équipe de débiles au pouvoir à Kaboul va changer quelque chose sur l'économie mondiale ou l'économie américaine en particulier, on se pose beaucoup de questions. Alors, évidemment, on n'a aucune réponse. Tout ce qu'on sait, c'est que ce sera pas forcément le pays que vous allez choisir pour aller vous mettre en string à la piscine publique là-bas, parce que ça pourrait mal se passer. C'est pas non plus le pays où vous pouvez aller là-bas directement et puis critiquer le gouvernement sans crainte de représailles. Donc voilà, donc du coup, ça on a une certitude. Par contre, quels sont les impacts économiques derrière ? On n'en sait rien. Certains commencent à dire qu'effectivement ça va galvaniser les terroristes qui sont en sommeil à cause du Covid depuis 18 mois, que ça va pouvoir motiver d'autres pays où l'Américain oppresseur pourrait se faire éjecter du pays, et que ça pourrait à terme avoir des conséquences sur les ventes d'armes dans le monde entier. Enfin bref, on se pose beaucoup de questions, on n'a pas beaucoup de réponses pour l'instant, mais ça reste quand même un stress latent dans tout ça. Et puis ce qui est assez intéressant, c'est qu'un des leaders talibans était planqué au Qatar jusqu'à maintenant et il est revenu, puisque maintenant ils sont au pouvoir, mais c'est assez sympa de voir que finalement les Qataris, en plus d'acheter Lionel Messi, ben, ils ont vendu un taliban aux talibans. Donc il faut forcément faire de l'argent quelque part. Donc voilà un petit peu les 4,5 raisons qui font que hier on a terminé en baisse, mais quand on regarde finalement que le DAX a perdu 0,02%, que le S&P a perdu 0,071%, que le Dow Jones a perdu plus ou moins la même chose, on n'est pas vraiment encore en mode panique. Et quand on observe les graphiques pour l'instant, ça se voit à peine, à moins de zoomer en triple zoom sur la zone de ces 3 dernières semaines, pour remarquer qu'effectivement, hier, la journée était un petit peu moins verte que d'habitude. Donc on reste quand même assez dans cette tendance bullish, évidemment. Et puis ce matin, quand on regarde un petit peu, les marchés asiatiques sont déjà en hausse, on tente le rebond. Sur le côté macroéconomique, on est plus ou moins rassuré pour l'instant, même si Powell a parlé hier en disant que il voyait quand même qu'il y avait une ombre qui pouvait se poser sur les marchés à cause du Covid, donc il a un petit peu peur du Covid. En même temps, on a eu monsieur Neil Kashkari, qui est le patron de la Fed de Minneapolis, qui a dit que ce serait quand même pas mal si on pouvait enquiller un tapering assez rapidement, et puis commencer à parler de hausse des taux. Alors que si vous avez un mec de la Fed qui commence à dire ça, c'est qu'il n'est pas non plus trop stressé d'un éventuel ralentissement économique. Donc voilà, globalement, il y a un peu de tout. À noter aussi que monsieur Kashkari a quand même juste dit que la crypto, c'était juste de la daube et de la fraude, plus ou moins. Donc ça, c'est toujours assez sympa. D'ailleurs, ça va être un petit peu pour ça que la crypto se fait un petit peu taper sur le groin ce matin. Mais ce ne sont que des prises de profit dans un trend haussier. Autrement, que vous dire de plus ? Dans la question du jour, aujourd'hui, on me pose la question suivante. Je me demandais ce que vous pensiez de l'action Moderna après la correction de ces derniers jours sur fond de crainte de survalorisation. Approche-t-on d'un point d'entrée intéressant à votre avis ? Alternativement, pour rester dans le secteur, mais limité d'être trop exposé à une compagnie, je regardais aussi l'ETF iShares Genomics Immunology and Healthcare, si vous avez un avis sur la question. Alors bon, d'abord, la question m'a été posée il y a 2 jours en arrière. Donc forcément, entre deux, Moderna a repris un wagon depuis les plus bas. Donc ça serait facile de dire oui. En fait, effectivement, il y a 2 jours, c'était un bon point d'entrée à 350, vu que maintenant ça vaut 400. Et la problématique de Moderna, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, bah, bon, si on regarde tout simplement techniquement, ce qu'elle est en train de faire depuis quelques jours, on pourrait se dire, logiquement, elle peut rebondir sur les 350. C'est un niveau de support. On peut tenter la prochaine leg à la hausse. Ce qui est assez intéressant de l'autre côté, c'est que quand vous regardez les prévisions des analystes, eh bien, les plus optimistes ont un target à 463 $. Et les plus pessimistes, eh bien, ils ont un target à 85 $. Donc quand vous faites le grand écart entre 85 et 463, on peut quand même se dire que eux-mêmes ne savent pas trop exactement où est-ce qu'on peut aller. Alors évidemment, tout est linké avec le vaccin, tout est linké avec toute cette problématique de Covid. Tant que le Covid fonctionne relativement bien comme il est en train de le faire actuellement, et tant qu'on pousse les vaccins dans cette direction et qu'on imagine qu'on va devoir se vacciner, se revacciner, se re-re-re-vacciner afin de pouvoir tenir le coup, eh bien, on peut se poser rationnellement à la question de savoir qu'est-ce qui va se passer sur Moderna, et c'est extrêmement difficile de faire des prévisions. Après, vous avez très bien enchaîné avec ce tracker, parce que finalement, quand on joue cette thématique des vaccins et de toute la lutte contre le Covid, eh bien, ce tracker vous permet au moins de vous exposer à 48 boîtes différentes, dont les plus grands noms, évidemment. Et ce qui vous permet ainsi, quand vous regardez un petit peu dedans, dans les stocks dedans, évidemment, vous avez du Moderna, vous avez du BioNTech, vous avez du Merck, vous avez du Regeneron, vous avez du Gilead. Donc, c'est bien, ça vous diversifie parce que vous avez le côté vaccin, mais vous avez aussi le côté médicament anti-Covid, et ça permet de vous exposer à une volatilité un petit peu moindre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe sur tous les titres de la biotech en général, il y a évidemment énormément de spéculation. Il faut quand même se rappeler que la biotech, c'est quand même un des secteurs les plus compliqués à jouer, parce que c'est un des plus compliqués à comprendre, savoir quelles sont les boîtes qui ont réellement du potentiel et réellement quelque chose à faire, à nous apporter pour l'avenir. Eh bien, c'est un métier, ça s'apprend pas en allant se connecter sur TikTok et puis regardant deux influenceuses qui font de la prédiction boursière avec des signes astrologiques. Mais disons que c'est relativement compliqué. C'est vrai que chaque fois qu'on a vu, historiquement parlant, des volatilités extrêmes sur la volatilité, ça s'est jamais très très bien sur la des volatilités extrêmes sur la biotechnologie, ça ne s'est jamais vraiment très très bien terminé. Donc effectivement, la diversification, c'est pas mal parce que ça vous permet de vous exposer avec moins de volatilité. Quant à Moderna, vous donnez une réponse, je vais m'abstenir pour l'instant parce qu'il faut être très franc, c'est extrêmement difficile de prendre position là-dessus. La seule chose que je pourrais dire, c'est que d'un point de vue purement basique et technique, si elle revenait sur la zone des 290, ce qui paraît à peu près impossible à l'heure actuelle, je me poserais la question de revenir dedans. Entre deux, ça implique beaucoup de volatilité et beaucoup de risques. Effectivement, aujourd'hui, quand on voit que techniquement, là, elle peut remonter facile à 485, vu la volatilité et la puissance du titre, c'est difficile de dire qu'il ne faut pas acheter, mais en même temps, elle peut aussi faire une journée de correction demain et reperdre 40 $. Donc, méfiance, danger, volatilité. Et si vous prenez simplement un graphique de Moderna depuis, allez, janvier 2020, eh bien, vous verrez que vu le chemin parcouru, ça fait quand même un tout petit peu peur et ça ressemble quand même à quelque chose de parabolique, un peu à la trajectoire d'une pierre que vous lancez en direction du ciel et qui va finir un jour ou l'autre par redescendre. Peut-être pas complètement sur Terre, mais en tout cas par redescendre. Donc voilà, méfiance, mais c'est vrai que je préférerais nettement aujourd'hui, courageusement, me positionner plutôt sur le high chair, genomics et immunologie. Voilà, un peu long ce matin, donc pour ce qui est de l'idée du jour, je vais m'abstenir et je vous retrouve demain pour un nouveau podcast et pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Swissquote Suisse. Passez une très bonne journée et à demain.